France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Quel conducteur êtes-vous ? Agressivité, insulte, l'étude que Vinci Autoroute dévoile aujourd'hui n'est guère flatteuse. Illustration dans un instant, alors que s'annonce un long pont pour beaucoup de Français. Nous serons dans les Côtes d'Armor où la randonnée booste l'économie. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lui se dirige vers la sortie. Le gouvernement décide de ne pas le reconduire. Explication à suivre. Nous serons dans les Pyrénées pour ce sommet sur les sommets entre Emmanuel Macron et le chinois Xi Jinping. Parleront-ils des droits de l'homme ? Et puis nous serons également au Proche-Orient. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Pour la première fois, des soldats israéliens dans la ville de Rafah ce matin.
Oui, ça n'est peut-être pas la terrible offensive que la communauté internationale redoute, mais c'est clairement un acte de surenchère.
A tout de suite pour ces informations sur Gaza. À suivre encore, une œuvre d'art volée hier au centre Pompidou-Metz. Des guêpes venues d'Asie pour réguler le nombre de mouches mangeuses de cerises. Ça se passe dans le Vaucluse. Et puis le grand défi du Paris Saint-Germain ce soir. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme.
Demi-finale retour de Ligue des Champions face aux Allemands de Dortmund dans un Parc des Princes annoncé bouillant.
Oui, alerte générale du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG veut un Parc des Princes incandescent pour permettre à Paris d'aller chercher son billet en finale.
Et vous nous direz comment, à partir de 13h30, 6 mois après le passage des tempêtes Kiran et Domingos, nous parlons des conséquences psychologiques de ces phénomènes climatiques. Ça va de l'anxiété passagère à la dépression. Si vous êtes concerné, venez nous raconter. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Les vols de câbles se multiplient et leurs conséquences sont nombreuses pour les communes touchées. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, on chante en italien dans C'est une chanson. Vivo per lei, demandé par l'actrice Mélanie Bernier à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La journée est classée rouge dans le sens des départs sur les routes. Il va donc falloir se boucher les oreilles en voiture pour ne pas entendre voler les jurons. Car si j'en crois le baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, qui mesure chaque année nos comportements au volant, ça n'est pas joli joli. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Deux conducteurs sur trois interrogés reconnaissent injurier les autres.
Oui, des Français largement au-dessus de la moyenne européenne. 67% assument insulter les autres conducteurs au volant. Paradoxe, ces mêmes Français dénonce essentiellement à 88% les comportements des autres conducteurs.
Bien sûr, je pense qu'on est tous irréprochables quand on nous pose la question.
Et les incivilités au volant ont grimpé depuis l'an dernier, confirme Christophe, chauffeur VTC.
Effectivement, il y a beaucoup de manque de respect sur la route. Ouais. Complètement irrespectueux, des klaxons qui servent à rien, des gens qui se disputent automatiquement. Je reste toujours calme.
Voilà, garder son calme. Anna, elle, constate que l'attitude au volant des conducteurs s'est largement dégradée également de son côté.
En fait, je reviens de 3 ans à l'étranger. Et quand je suis revenue, j'ai vraiment vu une grosse différence. La facilité à insulter, à s'énerver, à sortir de la voiture pour 3 fois rien. Il faudrait beaucoup plus de attitude, on dirait.
Plus inquiétant encore, des Français qui reconnaissent être absents au volant, distraits. 87% déclarent qu'il leur arrive de détourner le regard de plus de 2 secondes lorsqu'ils sont au volant. 78% pour utiliser leurs réseaux sociaux, constate également ce conducteur parisien.
Ça m'amuse tout le temps de voir les gens, de regarder un peu. C'est même pas inattentif maintenant. Au volant, ils sont tous sur des réseaux sociaux. Rien d'urgent. Soit de se prendre en photo, soit de taper en fait sur les réseaux sociaux, soit de faire n'importe quoi. C'est devenu en fait quelque chose de naturel.
Dernier point qui interroge, un Français sur 4 oui. Chez les plus jeunes déclare avoir pris le volant en état d'ébriété. Là aussi, les Français sont largement au-dessus de la moyenne européenne.
Tableau guère reluisant dressé par Laurent Kramer. On va essayer de s'améliorer collectivement. Je comprends donc, Laurent, que les piétons sont a priori plus polis que les automobilistes. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux sur nos côtes, ces marcheurs. Les sentiers littoraux font recette. C'est même une manne pour le tourisme qui fait vivre toute une économie et particulièrement en ce mois de mai de pont. Illustration dans les Côtes d'Armor. Joanne Moison.
Pierre, Thierry, Véronique et Myriam, deux couples d'Alsaciens, parcourent le GR34 entre Plouha et Erquy toute cette semaine. 18 km par jour et une organisation bien rodée.
On a tout préparé à l'avance. On a notre point de chute à Saint-Brieuc et puis tous les matins on prend notre voiture, on va en point de départ Et puis le soir, il y a un taxi qui vient nous chercher à l'arrivée et qui nous ramène au point de départ. Et on prend notre voiture, on revient au gîte. C'est plus pratique, on a un sac beaucoup plus léger.
Le taxi s'avère pour ces deux couples la solution la plus simple.
On a essayé de voir par rapport au coût des transferts, donc le taxi, des prêts de voiture, ou alors venir en deux voitures. Mais disons, c'est équivalent. Hein.
Alors le transport des randonneurs du GR34 avec leurs bagages et parfois leurs vélos, c'est une activité en plein essor. Pascal s'est lancé il y a 3 ans. Il transporte dans son minibus des marcheurs entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Brieuc et la demande est importante.
Il y a du boulot. Maintenant, c'est bien de plus en plus tôt. De mars jusqu'à fin octobre, on va dire que la saison se fait. Quoi. Mais mai, juin, c'est 2 gros mois. Et donc, il y a des plateformes qui m'appellent pour faire des réservations, etc. Je travaille avec l'international, le Canada, les États-Unis, l'Asie, toute l'Europe, bien sûr, mais beaucoup avec ces pays-là.
Dans les Côtes d'Armor, les 438 kilomètres de GR34 sont fréquentés chaque année par plus de 2 millions de randonneurs.
Reportage France Bleu Armorique et les prévisions météo dans 25 minutes pour ce long pont du monde sur les routes. Donc aujourd'hui, en cette veille de 8 mai, les trains, eux aussi, sont combles et le gouvernement a choisi ce pic d'activité à la SNCF pour annoncer ce matin le départ de son président, Jean-Pierre Farandou. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Il quittera son poste juste après les JO, il ne fera pas de deuxième mandat.
Eh non, Jean-Pierre Farandou, critiqué par les sénateurs notamment, qui doivent justement l'auditionner cet après-midi en commission sur l'accord de fin de carrière décrié dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et qui permettra aux cheminots de partir à la retraite plus tôt en dépit de la réforme adoptée l'an dernier par le Parlement. Les politiques au pouvoir l'ont en travers de la gorge et lui font payer clairement, analysent les syndicats. Jean-Pierre Farandou, débarqué du train par un communiqué, on va dire, lapidaire du gouvernement, 10 lignes, 3 paragraphes. Alors que son avenir à la tête de la compagnie ferroviaire était depuis longtemps en suspens, au cœur du prochain conseil d'administration de la holding SNCF, l'actuel PDG qui ne partait pas gagnant malgré sa volonté de poursuivre l'aventure, mais qui l'an prochain aurait été atteint par la limite d'âge fixée pour le patron de la SNCF à 68 ans. C'est ce critère qu'on met en coulisses en avant. Une conseillère ministérielle évoquant, je cite, « une belle opportunité pour Jean-Pierre Farandou de finir sur les JO, puis de partir sur un nouveau cycle ». Version, vous vous en doutez, qui ne convainc clairement pas les syndicats.
Merci Maxime Deps pour ces explications. Nous étions sur les sentiers de randonnée en Bretagne il y a un instant. Retournons-y maintenant dans les Pyrénées. Hein, au lieu de la marche et du cyclisme, le col du Tourmalet, le col le plus emprunté de l'histoire du Tour de France. Il est donc fréquent d'y croiser cyclistes et troupeaux, mais un peu moins des présidents de la République. C'est pourtant le cas aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron, qui y passait ses vacances d'enfance, y a convié le président chinois Xi Jinping. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Vous suivez ce déplacement aujourd'hui pour Inter. Les deux chefs de l'État s'apprêtent à déjeuner en altitude.
Oui, nous sommes pour l'instant dans le cortège derrière la limousine noire du président chinois sans plaque d'immatriculation. Il y a une demi-heure, Emmanuel Macron l'a accueilli à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Il lui a présenté notamment le maire de Bagnères-de-Bigorre sur le tapis rouge.
Maire de Bagnères-de-Bigorre.
Le tutoiement, tu vas voir, pour illustrer une certaine proximité. Avec leurs épouses, ils vont partager un jambon de porc noir, une épaule d'agneau et une tarte aux myrtilles dans le restaurant L'Étape du Berger, propriété d'un vieil ami d'Emmanuel Macron, Éric Abadie, chez qui il avait entonné un chant pyrénéen il y a 7 ans, en pleine campagne présidentielle.
La question des droits de l'homme, Maxence, vous nous avez donné le menu. Est-ce qu'elle sera au menu, cette question? Elle n'a pas été abordée hier soir lors du dîner d'État à l'Élysée.
Non, il y avait trop de monde autour d'eux dans la salle des fêtes pour que cette question soit abordée. Cela se fait porte fermée, dit l'Élysée. Ces sujets sont systématiquement abordés, prévient un conseiller. Mais sous les cloches des vaches dans cette auberge, Emmanuel Macron n'ira sans doute pas jusqu'à dire, comme sa candidate aux européennes, Valérie Ayer, que les Ouïghours sont victimes d'un génocide. Cela jetterait un sacré coup de froid alors que là-haut, quelques flocons tombent déjà.
Maxence Lambrecq, en direct des Hautes-Pyrénées. Merci à vous. Emmanuel Macron et Xi Jinping, évidemment très attentifs à l'évolution de la situation à Gaza. Hier soir, le mouvement islamiste Hamas a accepté la proposition de trêve formulée par le Qatar et l'Égypte. Mais 2 heures plus tard, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, a annoncé le déclenchement de l'intervention militaire au sol dans la ville de Rafah. Alors nous verrons dans un instant que les familles des otages font pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte cette trêve Europe. Voyons d'abord ce qui se passe à Rafah. Avec vous, Étienne Monin, des chars israéliens dans la ville ce matin et des répliques du Hamas.
Oui, pour l'instant, cette avancée éclair ressemble à une opération ciblée lancée sur le tiers est de la ville de Rafah pour prendre le contrôle du poste frontière côté palestinien. Des bombardements ont accompagné cette avancée pendant la nuit. Des images de chars et des drapeaux israéliens ont été diffusés sur les réseaux sociaux depuis la frontière de Rafah côté Gazaoui. Il y a eu des morts à Gaza. Le Hamas affirme avoir répliqué. L'ONU n'a plus accès à cette frontière et l'aide humanitaire est totalement bloquée au sud. D'après les Israéliens, cette opération est limitée. Elle arrive deux jours après des tirs de roquettes des groupes armés sur le point de passage de Kerem Shalom qui ont tué 4 soldats israéliens. Cette opération s'inscrit donc dans un processus de surenchère. Elle est soutenue par la majorité du cabinet de guerre de Tel Aviv. Elle permet aux Israéliens de sceller l'enclave, de détruire les tunnels sous cette partie de la frontière avec l'Égypte et de mettre la main sur l'aide humanitaire pour s'en servir potentiellement de levier au profit de certaines factions qu'Israël souhaite impliquer dans la gestion de l'enclave. Pour autant, les négociations ne sont pas enterrées, mais les deux parties ne sont pas d'accord sur la nature de la trêve. L'opération de ce matin pèse donc sur les discussions, sans prendre pour autant la forme d'une offensive hautement destructrice sur Rafah, qui est une ligne rouge posée par les États-Unis et la communauté internationale.
Merci Étienne Monin pour ce décryptage. Déploiement donc de l'armée israélienne au sol, ce qui accroît encore l'inquiétude des proches des otages détenus par le Hamas à Gaza, plus d'une centaine. Hier soir, des milliers de manifestants israéliens sont descendus dans les rues des grandes villes, pleins d'espoir. Après l'annonce du Hamas, ils ont vite été déçus. Reportage Thibault Lefèvre.
Hier soir, à l'annonce du Hamas, Shai est sortie pleine d'espoir.
Je suis tendue, bien sûr. J'ai beaucoup d'attentes et je suis très excitée de pouvoir revoir Carmel très bientôt.
Quelques heures plus tard, c'est la douche froide. Pas d'accord et donc pas de perspective de libération pour sa cousine Carmel, otage du Hamas depuis 214 jours.
I'm scared.
J'ai peur. Israël est à Rafah. J'ai peur pour la vie de beaucoup de gens et j'ai peur pour la vie de ma cousine. On a besoin d'aide. On a besoin de l'aide du monde entier.
Shai et les quelques centaines de manifestants se sont rejoints hier devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Car pour Lewis et tous les autres, il est le principal responsable d'une guerre qui dure depuis 7 mois, jour pour jour.
Beaucoup de gens disent que Netanyahou est entre le marteau et l'enclume. Mais chez lui, le marteau et l'enclume se situent entre ses deux oreilles. Il n'en a rien à faire des otages, il s'occupe juste de lui-même, mais on ne s'arrêtera pas et on ne nous fera pas taire.
Ce matin, au Parlement, des proches d'otages ont supplié des députés de donner suite à la proposition d'accord du Hamas. Ils ont qualifié l'attitude de Benjamin Netanyahou d'irresponsable.
Reportage de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefèvre. Alors, ce déploiement militaire israélien à Rafah pose évidemment de lourdes questions humanitaires. Une invasion de la ville serait intolérable, a dit la nuit dernière le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui parle de conséquences humanitaires dévastatrices de tels combats pour les Palestiniens. Écoutez le témoignage d'Hassan. Il est avocat, il habite Rafah, il a décidé d'y rester avec toute sa famille. Malgré l'offensive, il se dit pris au piège.
Les chars israéliens n'ont pas arrêté cette nuit de viser les quartiers est de la ville de Rafah et en ce moment, on entend encore par intermittence le fracas des explosions, des tirs d'artillerie, mais aussi celui des frappes aériennes sur cette partie est. Du coup, les gens fuient depuis ce matin et cela va continuer encore jusqu'à cette nuit. Israël est depuis ce matin aux commandes du seul point de passage où pouvaient entrer les camions d'aide étrangère pour Gaza et plus personne ne peut sortir de la ville pour aller en Égypte parce que l'armée israélienne a pris le contrôle de ce poste frontière de Rafah.
Le témoignage d'Hassan, cet habitant de Rafah, au téléphone de Noé Pignède. Aucun représentant américain ce matin, mais un émissaire français au Kremlin, le siège du pouvoir présidentiel à Moscou, pour assister à la cérémonie cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine. À 71 ans, il débute un cinquième mandat de 6 ans après un scrutin entaché de fraude, selon de nombreux analystes. Diriger la Russie est un devoir sacré, a dit ce matin le président russe. Son armée, en tout cas, elle grignote petit à petit sur le front. Les Russes mettent les bouchées doubles avant l'arrivée des munitions américaines. Et parmi les pertes ukrainiennes de ces dernières heures figure un athlète olympique, l'haltérophile Oleksandr Pielichenko, quatrième catégorie mi-lourd. C'était aux Jeux de Rio en 2016. Bonjour Virginie Pierronon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Kiev. Son décès vient d'être confirmé par le Comité national olympique ukrainien.
Oui, le comité olympique, je cite, a annoncé que l'athlète est décédé lors d'opérations de combat, sans plus de précision sur son unité ou l'endroit où il se battait ces derniers jours. Alexandre Pielichenko, 30 ans, qu'on entend ici dans une vidéo de démonstration, l'haltérophilie facile, s'était engagé dans l'armée dès les premiers jours de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se succèdent. Sur les réseaux sociaux, des photos le montrent en tenue militaire, barbe brune, le regard franc. Le double champion d'Europe 2016 et 2017 n'avait plus concouru depuis 2018, après avoir été testé positif à un produit dopant. Son décès, le premier d'un médaillé olympique en Ukraine, intervient au moment même où les athlètes sont en pleine préparation pour les JO de Paris, ce qui relance ici évidemment le débat sur la participation des athlètes russes, même sous bannière neutre. Comment est-ce possible de les laisser concourir, s'étrangle ici un membre du comité olympique ukrainien, qui rappelle que depuis le début du conflit, environ 450 sportifs de haut niveau sont morts en défendant leur pays.
Virginie Pierronon à Kiev pour Inter. Cette guerre en Ukraine qui nourrit le débat en France, en pleine campagne des élections européennes, le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, se voit régulièrement reprocher par ses rivaux ses positions pro-russes et celles de son parti avant l'invasion de l'Ukraine. Ce à quoi le président du RN a répondu ce matin sur Inter en pointant de son côté les liens supposés entre la candidate de la majorité, Valérie Ayé, et de grands groupes américains.
Moi, je ne dépends de personne. Je ne dépends d'aucun lobby. Je suis totalement libre. Et vous me parlez de McDonald's. Mon parti politique européen n'est pas financé par McDonald's. Contrairement
c'est
à l'AFDE, qui soutient la campagne de Madame Ayé. Les macronistes au Parlement européen reçoivent des financements d'Amazon, de Microsoft et de McDonald's. Donc, eux dépendent de ces financements, pas moi.
Le président du RN ce matin avec Yael Gauz et Nicolas Demorand. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles, des soutiens d'Amazon, de Microsoft, de McDonald's pour le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que Jordan Bardella dit vrai ?
Non, cette accusation est fausse. Les eurodéputés macronistes n'ont touché aucun don financier de la part d'Amazon, de Microsoft ou de McDonald's. Et ils n'ont aucun lien juridique avec ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, parti européen qui, lui, a touché en effet en 2022 et 2023 de l'argent de ces multinationales. 9 500 euros de McDonald's, par exemple, ou 18 000 euros d'Amazon, des dons légaux. Car pour être clair, il y a deux étages politiques en Europe, les partis et les groupes parlementaires. Alors ce qui a sans doute poussé Jordan Bardella à une telle accusation, c'est le fait que les macronistes siègent dans le même groupe que des élus membres de l'ALDE comme les libéraux allemands, ou bien le fait que sur la liste macroniste pour le futur Parlement figurent deux membres de l'UDI et du Parti radical, parti français, affiliés, eux, à ALDE. Contacter l'équipe de Jordan Bardella ne nous a pas répondu. En revanche, chez Renew, une source interne nous indique que ce sont justement les liens jugés douteux d'ALDE avec de grandes multinationales qui ont fait capoter plusieurs tentatives de rapprochement des eurodéputés macronistes avec ceux d'ALDE. ALDE qui a par ailleurs cessé en 2024 de toucher des dons des GAFAM. À noter par ailleurs qu'à Strasbourg, les groupes politiques réunissent des sensibilités souvent diverses. Le Rassemblement National doit lui aussi composer avec un partenaire jugé sulfureux, l'AFD allemande, au cœur d'un scandale actuel d'espionnage au profit de la Chine.
Merci Angélique Boin, en direct de Bruxelles.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Le Paris Saint-Germain s'y est toujours cassé les dents. Gagné la Ligue des Champions. Il y a 4 ans, en finale, c'est un club allemand qui avait barré la route des Parisiens, le Bayern Munich. Ce soir, c'est un autre club allemand en demi-finale. Retour, le Borussia Dortmund. Xavier Monferrand, vous êtes à nouveau avec nous. Le PSG met les petits plats dans les grands pour remonter le retard d'un but après la défaite la semaine dernière dans la Ruhr. Vous allez nous raconter ça, Xavier. D'abord, la clé technique du match de ce soir avec notre consultant, Bichente Lizarazu. C'est le match des attaquants parisiens.
Les raisons d'espérer, c'est que Paris n'a pas été bon et qu'ils peuvent largement jouer un meilleur niveau, que notamment les attaquants Dembélé, Mbappé peuvent se sublimer sur un match. Ils ont la capacité de percer toutes les défenses. Après, tout dépendra aussi de l'adversaire, tout dépendra de la capacité de Dortmund à se sublimer à l'extérieur. Ils savent le faire en Ligue des Champions. Ils ont éliminé l'Atlético Madrid, il ne faut pas oublier ça.
Bichente Lizarazu parle de Kylian Mbappé. Ce sera son dernier match de Coupe d'Europe à domicile ce soir sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Dans quelle ambiance, Xavier Monferrand ? C'est l'union sacrée depuis quelques heures pour que l'équipe ait le plus de soutien possible ce soir.
C'est même mobilisation générale du côté du PSG. Le message est clair pour tout le monde. Président, joueur, staff et supporters, il faut mettre la pression sur Dortmund. Pas la pression du résultat, non. Ça, elle est clairement sur le Paris Saint-Germain. Et Paris est sûr de ses forces. Non, la pression, c'est celle qu'il faut exercer sur le Borussia. Pour ça, le PSG et les ultras ont prévu un tifo exceptionnel. Ils se sont relayés jour et nuit pour le préparer. Et ils ont lancé un appel à toutes les tribunes pour que le Parc des Princes mette une ambiance de feu, littéralement, et qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais bien des supporters, même si certains ont acheté leur place très, voire trop cher, jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour voir ce match ce soir en tribune. Paris ne veut pas de touristes ce soir dans le Parc des Princes. C'est le président Qatari Nasser El Khelaifi qui le dit. Il faudra compter sur tout le stade. Et en cas de qualification, la fête risque d'être très longue au Parc et jusque sur les Champs-Élysées, évidemment.
Et on se souvient de la fête après l'élimination de Dortmund déjà il y a 4 ans. C'était à l'époque un match à huis clos en plein Covid. Merci Xavier Monferrand. Coup d'envoi 21h ce soir pour ce Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Deuxième jour d'un procès hors norme devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence aujourd'hui. Celui du double homicide de l'aéroport de Bastia en 2017. L'assassinat de deux figures dissidentes de la célèbre mafia corse, la Brise de Mer. 14 femmes et hommes comparaissent pour avoir voulu venger les assassinats de leur chef de clan. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter, Jean-Philippe. Élément clé de ce dossier, les téléphones réputés inviolables que les enquêteurs ont réussi à pénétrer.
Oui, c'est en effet pour la première fois dans ce dossier que les experts sont parvenus à briser les cadenas de ces téléphones BGP et ainsi accéder à l'ensemble des échanges entre ceux qui se croyaient protégés, offrant sur un plateau aux enquêteurs tous les préparatifs du double assassinat, sa réalisation et même les messages de satisfaction une fois le travail accompli. Alors, en ce début de procès pour leur interrogatoire de personnalité, les accusés veulent présenter un visage honorable. Ainsi ce matin, Ange-Marie Michelozzi, fils du propriétaire du fameux Petit Bar, il se décrit non pas comme un héritier du gang du Petit Bar, mais comme une victime de ce lourd héritage patronymique. Depuis l'assassinat de son père quand il avait 19 ans, il raconte sa vie comme une fuite perpétuel pour éviter d'être la prochaine victime. C'était comme un soleil au zénith et tout d'un coup il fait nuit, résume-t-il au juré. Michelozzi porte en permanence un gilet pare-balles, une arme de poing dans la poche, impossible d'avoir un travail déclaré. Alors il se lance dans le trafic de cannabis pour s'en sortir. Cette vie-là, je ne l'ai pas choisie, se défend Michelozzi. Personne ne peut choisir une vie comme ça. La seule maîtrise que j'ai aujourd'hui, c'est ma dignité, se défend l'accusé en regardant les jurés droit dans les yeux.
Jean-Philippe Degnaud en direct de la cour d'assises d'Aix-en-Provence. À Châteauroux, l'émotion ne retombe pas. Plusieurs centaines de personnes réunies en ce moment dans le stade de la ville, le stade Gaston Petit, pour une cérémonie d'hommage en mémoire de Matisse, cet adolescent de 15 ans, mort poignardé il y a 10 jours. Il était fan de football, d'où cet hommage. Son cercueil quittera ensuite, dans les prochaines minutes, le stade pour la cérémonie d'obsèques prévue en début d'après-midi. De nouveaux tags dont certains faisant référence à l'islam, découvert ces dernières heures en Dordogne, cette fois sur 80 tombes d'un cimetière dans le village de Tourtoirac. Des faits qui se reproduisent dans le département depuis décembre. Une enquête est ouverte. C'est un insecte qui pourrit la vie des producteurs de cerises du sud de la France depuis des années. Une mouche prédatrice, Drosophila Suzuki, un petit moucheron originaire d'Asie du Sud-Est et qui a débarqué en Europe de manière accidentelle en 2008. Il fait des ravages considérables, d'où cette tentative de l'INRAE de Montpellier qui vient de lâcher dans la nature 750 guêpes dans le département du Vaucluse. Tout cela pour qu'elles régulent le nombre de mouches. Dimitri Morgado, il s'agit de petites guêpes venues elles aussi d'Asie.
Oubliez tout de suite la guêpe que l'on connaît. Là, on est sur un modèle très très réduit. Léa Darmedru est assistante ingénieure sur le projet.
Ça ressemble un peu à des moucherons. C'est des tout petits insectes noirs avec des ailes
qui font 2-3 mm.
C'est loin de l'image de la guêpe qu'on a dans la tête,
ouais,
non ?
Oui, c'est assez loin. En fait, c'est la même famille que les guêpes. Donc on a tendance à dire guêpe pour se faire comprendre. Mais en fait, ça pique même pas.
Ça ne pique pas, mais ça s'incruste un peu partout. Pour attaquer, cette guêpe exotique va introduire son dard directement dans la larve de la mouche. Elle va pondre et l'œuf va ensuite se nourrir de cette larve.
Et c'est ça qui permet en fait de contrôler la population. Quand les mouches vont pondre, a priori, elles vont jamais pouvoir sortir, quoi.
Encore faut-il l'introduire dans la nature et c'était bien l'objectif de se lâcher.
Alors du coup, là, j'ai un tube avec tous les individus. Donc j'ouvre le tube près de la branche où il y a des fruits et je vais les laisser s'envoler tranquillement. Moi, je peux les aider un peu parce que...
Elles veulent pas trop là.
Parce qu'il fait pas très beau.
Mais ah
ouais,
ça y est.
Là, voilà, ouais, ça prend un peu de temps.
Au final, les 750 guêpes sont toutes sorties des tubes, mais il faudra attendre plusieurs années pour connaître leur réelle efficacité.
Reportage France Bleu Vaucluse. Alors importer de nouveaux insectes de l'autre bout du monde pour réguler un nuisible venu lui aussi de la même région, n'est-ce pas jouer aux apprentis sorciers ? On ne fait pas n'importe quoi, rassure Adrien Le Navenant. Il est ingénieur à l'INRAE, l'Institut de Recherche Publique spécialisé dans l'agronomie.
Il y a eu des exemples au tout début, quand c'était pas forcément bien encadré, des problématiques, alors pas que en France, hein, dans le monde entier, soit d'introduction volontaire qui ont échoué, soit d'introduction involontaire qui n'était pas contrôlée. Mais maintenant, avant de lâcher des insectes, en fait, il y a toute une procédure très stricte et rigoureuse. Déjà, pour aller sur place, il faut compléter un dossier. Pour ramener les insectes en France, il faut recompléter un nouveau dossier, il faut des autorisations. Ensuite, il y a des études qui sont très longues, ça met plusieurs années, pour vérifier que effectivement l'insecte se développe bien sur la cible qu'on souhaite et pas sur des autres cibles dont on ne veut pas avoir des effets. Et ensuite, on obtient les autorisations de lâcher dans l'environnement pour une période déterminée. C'est ultra strict et contrôlé. On peut pas, enfin, c'est pas possible de venir dans un pays, de récupérer des insectes, de les rapporter, de les lâcher. C'est pas possible de faire ça.
Les explications d'Adrien Le Navenant au téléphone de Sandy Dauphin. À Metz, beaucoup de questions se posent depuis hier et l'action menée contre plusieurs œuvres du musée Pompidou, Metz. La vitre du tableau L'Origine du Monde de Gustave Courbet, tableau prêté par le musée d'Orsay. Cette vitre a été taguée à la peinture rouge hier, tout comme trois autres œuvres. C'est la performeuse Déborah de Robertis, performeuse franco-luxembourgeoise, qui a revendiqué cette action. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour à tous.
Quatre œuvres taguées donc et une qui a été dérobée. Il s'agit d'une installation d'Annette Messager, une inscription sexuellement très provocante sur une broderie qui a carrément été décrochée et volée.
Oui, alors déjà, il faut rappeler que Déborah de Robertis se considère comme une artiste. C'est une performeuse qui, peut-être vous en souvenez, s'était mise toute nue dans la même position que L'Origine du Monde devant le public médusé au musée d'Orsay. Et là, le plus important, le plus grave, c'est que pour la première fois, une œuvre est carrément attaquée, on va dire abîmée, puisque la photo de l'artiste autrichienne Vali Export a été taguée directement sur le cliché. Et donc, une installation d'Annette Messager carrément volée. Donc c'est une inscription qui est sexuellement provocante sur une broderie, une variation sur le thème de la fellation, de la célèbre phrase « Je pense, donc je suis, je ne vous ferai pas de dessin ». En tout cas, Annette Messager se dit choquée par cette intervention de la performeuse féministe qui s'en est pris à des œuvres d'artistes féministes.
L'œuvre a été volée. Si vous voulez, pour moi, l'œuvre n'a pas été détériorée. Elle a été volée et je pense qu'elle peut être trouvée. Mais elle le revendique comme un geste de réappropriation. Ce qui est curieux, c'est que cette artiste, elle est aussi dans l'exposition. Donc, ce n'est pas une revendication parce qu'elle ne serait pas exposée. Donc, elle considère que c'est un geste artistique. Je trouve que c'est un peu débile, tout ça. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Et surtout, Annette Messager dénonce la dégradation des œuvres.
Ça, c'est vraiment pas bien du tout. C'est beaucoup plus grave. Quand elle se met nue devant L'Origine du Monde, qu'elle fait une vidéo, ok. Mais là, un geste destructeur, non, c'est pas une revendication pour moi.
Alors, pour justifier ce vol, sur son compte Instagram, la performeuse publie une vidéo sexuelle avec le commissaire de cette exposition, Bernard Marcadet, propriétaire de l'œuvre d'Annette Messager. Et là, on tombe dans une zone malaisante de l'intime qui pose juste cette question. Mais où est l'art ?
Merci Isabelle Pasquier de nous avoir expliqué ce qui s'est donc passé hier à Metz. Je reviens à l'essentiel, cette exposition Lacan, l'exposition visible au centre Pompidou-Metz, c'est jusqu'au 27 mai, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac avec à nouveau des averses aujourd'hui. Puis à 13h30, nous parlons des conséquences psychologiques des événements climatiques, tempêtes, inondations ou simples orages. Ils laissent parfois des traces insoupçonnées, même quand les dégâts sont légers. Question témoignage 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous suivons toujours la vie d'un panneau solaire cette semaine. Aujourd'hui, l'assemblage. 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson. Frédéric Pommier et Cyril Petit. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous ?
De Plounérin dans les Côtes d'Armor à Espinasse dans les Hautes-Alpes en passant par Amiens dans la Somme, on parlera des vols de câbles en cuivre qui augmentent et de leurs conséquences.
A tout de suite, avec vous Frédéric, une comédienne.
Mélanie Bernier, que vous pourrez voir demain au cinéma dans le film Neuilly-Poissy, et c'est Vivo Perlet qu'elle nous fera écouter. Andrea Bocelli, Hélène Segarra, de grande voix.
Vous avez fait italien deuxième langue, vous Frédéric ?
Quatrième langue.
Quatrième langue, vous parlez mieux que moi alors. A tout à l'heure Frédéric.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
France Inter, partenaire de la carte blanche à François Morel, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris. Trois spectacles à ne pas manquer. Tous les marins sont des chanteurs pour fêter l'amour et l'amitié. Le dictionnaire amoureux de l'inutile, une lecture à deux voix des meilleures pages d'un dictionnaire pas comme les autres. Et j'ai des doutes, un spectacle musical en hommage à Raymond Devos. Un artiste, François Morel, pour trois spectacles, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine, des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs, en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des averses aujourd'hui.
Oui, du sud-ouest à l'Auvergne, on a un ciel menaçant avec des averses parfois orageuses, du vent. De la Franche-Comté jusqu'aux Alpes, là aussi des averses, parfois un orage vers la Corse, le sud des Alpes et aussi sur la Côte d'Azur, avec un peu de grêle possible. C'est de la neige sur les Pyrénées et le nord des Alpes autour de 1800 mètres. Et puis ailleurs, on a un ciel souvent partagé entre éclaircies, nuages, quelques averses. Elles épargnent le nord-ouest et aussi le littoral du Roussillon à l'ouest du Var. Les éclaircies sont belles avec du vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Les températures restent un peu fraîches au sud avec seulement 14 degrés à Grenoble, 14 aussi à Besançon, 15 à Clermont-Ferrand, à Toulouse, 17 à Caen, 18 à Bourges et à Bordeaux, 19 à Lille, à Nancy, 20 degrés à Paris, Nantes, Marseille ou Ajaccio. Dès demain, hausse des températures, retour progressif du soleil. Il restera encore quelques averses demain du sud-ouest aux régions de l'est, mais ce sera du soleil pour tout le monde dès jeudi.
Et ça va durer.
Samedi inclus, dimanche peut-être une dégradation par l'ouest.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
C'était il y a 6 mois, quasiment jour pour jour, sur la moitié ouest du pays, les passages successifs de deux tempêtes, Kiran et Domingos. La première va balayer le nord-ouest, du Morbihan au Pas-de-Calais, en passant par la Normandie. La seconde, quelques jours plus tard, atteint le sud-ouest, des Landes à la Vendée, en passant par le Poitou-Charentes. Bilan, 3 morts et de nombreux blessés. 1,3 milliard d'euros de dégâts chiffrés par les assurances, 517 000 sinistrés. Ça, c'est pour les dommages qui se voient. Et puis, il y a les traces invisibles, les conséquences psychologiques de ces phénomènes climatiques sur les hommes et les femmes qui les subissent, ces habitants qui, par exemple, s'inquiètent à chaque coup de vent, à chaque alerte météo. Les conséquences peuvent aller du simple stress jusqu'à l'obligation de déménager si vous faites partie de ces habitants qui ont subi ou qui subissent toujours ces craintes. Vous nous appelez, vous venez témoigner 01 45 24 7000, vous passez également par l'application France Inter. Nous sommes avec deux invités aujourd'hui. Coraline Ingré, bonjour.
Bonjour, vous êtes merci beaucoup.
Médecin psychiatre, je vous en prie, au CHU de Nancy. Vous êtes membre également de la Fondation Alliance Fondamentale. Vous intervenez en direct des locaux de nos confrères de France Bleu Lorraine à Nancy et je les en remercie. En ligne également avec nous, Elisabeth Tabary, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez La Faute-sur-Mer, en Vendée. Merci d'être avec nous. C'est un nom évidemment qui résonne aux oreilles des auditeurs de France Inter. Vous avez vécu la catastrophe de février 2010, la tempête Xynthia, la mort de 29 personnes, dont votre mari et votre petit-fils. Vous étiez avec eux à ce moment-là. Vous allez nous parler de ce traumatisme et de la manière avec laquelle vous avez essayé de le surmonter, de le dominer, si je puis dire. Elisabeth, je voudrais qu'on accueille un premier auditeur. C'est Grégory. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous étiez maire il y a quelques années sur l'île d'Oléron, c'est ça, d'où vous nous appelez Grégory, et vous croisez régulièrement des personnes qui vous parlent du traumatisme et des tempêtes.
Oui, exactement. Et moi, j'étais maire de Dolus entre 2014 et 2020. Et en 2015, on avait répondu à un appel à projet de l'État qui s'appelait Littoral 2070 pour essayer d'aménager nos territoires sur le long terme. Et c'est vrai qu'à l'époque, le sujet parlait peu aux gens. Et les deux tempêtes que vous avez évoquées là, en octobre ont eu un impact incroyable parce que vraiment la morphologie du territoire, dont on a beaucoup de cordons dunaires, a vraiment énormément changé en peu de temps. Et c'est vrai que ce que je disais à votre collègue à l'accueil, moi j'ai été surpris parce que je me balade beaucoup. Et depuis toutes ces années où on travaille sur le trait de côte, vraiment cet hiver, j'ai jamais vu autant de gens s'interroger sur ce qui peut être fait ou pas d'ailleurs, sur l'avenir de la vie sur le littoral.
Et donc c'est quoi ? C'est un stress pour eux parce qu'ils ont eu peur pour eux, ou c'est un stress plus large ? C'est un stress lié au changement climatique ?
C'est un mélange de tout, parce qu'une maison, mais je pense que la dame de la faute en parlera bien mieux que moi, c'est pas que des parpaings, il y a des souvenirs, il y a des mètres cubes de photos, c'est le mariage de la petite dernière, c'est les 100 ans de la grand-mère, c'est tout un pan de vie. Quand on habite sur le littoral, c'est qu'on a un attachement émotionnel très très fort avec ce territoire, et on est en train de vivre ce qu'on appelle la solastalgie, c'est-à-dire des endroits qu'on aime et qui disparaissent. Nous, par exemple, dans notre famille, l'endroit où notre grande fille, qui a 16 ans aujourd'hui, a fait ses premiers pas, aujourd'hui n'existe plus, parce qu'il est sous l'eau. Mmh. Alors là, c'est pas très grave, mais ce sont des choses qui existent. Et les interrogations sur quel type de défense dure, défense douce, quel financement, quelle position de l'assurance, énormément d'interrogations. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de nos sociétés modernes, qu'on est confronté à cette équation complexe, collective, quoi.
Interrogation et prise de conscience, si je vous comprends aussi, Grégory. Merci. Exactement. Pour cet appel depuis l'île d'Oléron. Je voudrais qu'on vous retrouve, Elisabeth Tabary, à La Faute-sur-Mer, pour que vous nous parliez de ce qui vous est arrivé et aussi pour nous dire comment vous parvenez aujourd'hui à vivre avec ce traumatisme-là. Est-ce que vous vous êtes fait aider, d'ailleurs ?
Oui, je me suis fait aider, oui. Contrairement à beaucoup de personnes, je me suis fait aider, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là.
Alors vous, c'est d'une toute autre proportion par rapport au témoignage de Grégory. Je l'ai dit, vous avez perdu votre mari et votre petit-fils. Comment vous avez réussi à continuer à surmonter ce traumatisme, si tant est qu'on puisse le surmonter ?
Je ne sais pas. Je vous dis, la vie continue, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. J'ai continué à vivre. Pour moi, c'est ma deuxième vie. J'ai une vie heureuse. Maintenant, c'est ma deuxième vie. Et puis, je profite des petites choses de la vie. Je fais ce que je peux. Voilà.
Je suppose que vous êtes passé par toutes les phases depuis 14 ans.
Oui, je suis passée par toutes les phases. J'ai quand même été 10 ans un petit peu dans le brouillard. Je savais pas trop ce qui s'est passé. Et vers les 10 ans, je me suis réveillée d'un seul coup en disant « Mais ça m'est arrivé à moi. » Vous voyez ce que je veux dire. Ça a été traumatisant même 10 ans après, en disant mais c'est arrivé à moi, c'est pas possible, voilà. Bon, tous les matins je me réveille en pensant à ce qui m'est arrivé, en pensant à ceux qui ont disparu, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'il y a toujours des craintes quand vous entendez le mot tempête, le mot alerte, météo ? Est-ce que vous êtes évidemment très sensible aux annonces météo qui sont faites ?
Je suis sensible aux annonces, oui, pour les autres. Pour moi, j'ai pas peur. Après tout, je suis passée de l'autre côté, donc j'ai pas peur. Pour les autres, oui.
Coraline Ingré, je voudrais vous soumettre alors le témoignage à la fois de Grégory et puis celui d'Elisabeth, qui est évidemment un cas extrême, si je puis dire, qui n'a rien à voir, heureusement, avec ce que vivent les gens qui se retrouvent pris dans des tempêtes le plus souvent. Mais enfin, est-ce qu'il y a des points communs dans les symptômes, dans les phases que l'on traverse lorsqu'on a vécu un tel événement ?
Oui, complètement. Alors, un tel événement, une catastrophe naturelle, ça vient réunir vraiment un événement brutal, inattendu, très violent, avec un sentiment total d'impuissance. On ne peut pas agir sur ce qui est en train de se passer, sur ces événements. Et ça, c'est un des caractéristiques des événements traumatiques. Et donc, suite à ces événements, on peut développer évidemment de l'anxiété, mais le plus souvent, le risque est de développer un trouble de stress post-traumatique. traumatique. Et qu'est-ce que c'est qu'un trouble de stress post-traumatique ? Notre auditrice en parle très bien. C'est effectivement avoir des images qui reviennent. On le voit très bien dans les films, hein, quand on fait de l'intrusion, des cauchemars, des flashbacks suite à des traumas. Ça, c'est un premier élément. C'est les intrusions qui viennent s'imposer à nous. Et puis, il y a quelque chose que l'on connaît moins, qui est les évitements. Éviter le lieu où ça s'est passé, couper la radio et ne plus regarder la météo, éviter d'en parler. Tout cela, déménager, parce que ça m'est insupportable, comme vous le disiez très bien, ça fait aussi partie du trouble de stress post-traumatique. Et puis, vous le disiez, bah oui, qu'est-ce qui se passe quand on entend le mot ? Eh bien, ça, on appelle cette hypervigilance, cette méfiance. Le cerveau reste en alerte, et donc je vais à chaque fois me retrouver en alerte parce que je sais qu'il va y avoir de la pluie, parce qu'il y a un coup de vent qui vient réveiller un petit peu ces événements traumatiques. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce type d'événement est d'autant plus pour Elisabeth avec cette perte absolument innommable de deux personnes dans cet événement, c'est que il y a un avant et un après, elle le dit très bien. Il y avait ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Le trauma, c'est quelque chose qui change sa vision de soi, avec parfois de la dévalorisation, parfois de la culpabilité ou ce genre de choses. Le trauma, ça change sa vision des autres. Pourquoi on m'a laissé construire une maison dans quelque chose qui était submersible ? Est-ce que je peux encore faire confiance ? Et puis sa vision du monde, parce qu'il y a quelque chose d'injuste profondément dans tout ça.
Coraline Ingret, est-ce que ça peut se déclarer longtemps après un sinistre, ces symptômes, on pense ne pas avoir affecté, puis un jour on est rattrapé, ça arrive ?
Oui, complètement. Il peut y avoir un décalage entre l'événement et le développement des troubles de stress post-traumatique. Et comme l'a très bien dit aussi Elisabeth, on se retrouve, elle a été pendant longtemps dans ce qu'on appelle un syndrome dissociatif, c'est-à-dire que, est-ce que ça m'est vraiment arrivé, un sentiment d'irréalité, de déréalisation, et à un moment toute la réalité lui est revenue brutalement et à ce moment-là, elle s'est réveillée et aussi, elle a repris une forme de souffrance différente. Donc, on a assez régulièrement des décalages entre les événements et les symptômes.
Autre témoignage au 01 45 24 7000, c'est celui de Hugues. Bonjour Hugues.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Normandie.
Je vous appelle de Normandie, mais pour témoigner d'avoir vécu une tornade qu'on appelle la tornade d'Aumont, donc dans la région de Maubeuge. C'était en août 2008. Il y a eu des dégâts énormes. Des maisons complètement démolies. Il y avait des vents à plus de 300 km à l'heure, vous imaginez. Et puis bon, j'habitais sur place avec mon épouse, et puis bon, voilà, on était choqués, bien entendu, ça a duré même pas une minute,
ouais.
C'est bon, et puis ben, il y a eu des dégâts à la maison, mais rien de bien grave, il y a eu quand même 3 morts, et après j'ai déménagé en Normandie, et un jour je faisais des courses dans un supermarché de bricolage, la facture étant élevée, on m'a demandé ma carte d'identité, et quand je l'ai donnée, la caissière a regardé, elle a dit « Ah, Aumont, c'est là qu'il y a une tornade ?» Et je me suis mis à pleurer.
Et c'est la première fois que vous réagissiez ainsi ?
Oui, oui, oui. Mais c'était 2-3 années plus tard. Et à vous en parler aujourd'hui, je suis encore ému.
On sent votre émotion, effectivement, Hugues, en évoquant ce qui vous est arrivé il y a quelques années. Merci à vous.
Mais quand j'imagine ce que les gens vivent aujourd'hui, je compatis et je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas.
Et vous n'êtes pas le seul, vous l'avez bien compris. Merci, Hugues, de votre appel. Elisabeth Tabary, je reviens vers vous après ce qui vous est arrivé, vous, en 2010, à La Faulte-sur-Mer. Vous êtes resté vivre sur place et vous faites aujourd'hui partie d'une association de familles de victimes. Pour quelle raison ?
Ben, je suis restée vivre sur place parce que je ne veux pas abandonner les miens. Ils sont décédés là, donc je ne peux pas partir. J'ai beaucoup de difficultés à partir. Il faut que je reste sur place, j'ai l'impression de les abandonner, voilà, tout simplement.
C'est témoin... Donc, c'est pour ça... Ouais. Mais ça doit être douloureux de rester sur place.
Ah, pas du tout.
Non. Ouais.
Ils sont autour de moi, pas du tout. Ce qui est douloureux, c'est de partir et de rester loin, voilà, pendant 8 jours, 10 jours. C'est compliqué.
Et faire partie d'une association de victimes, pour vous, c'était évident ?
Oui, c'était évident. Bon, oui, c'était évident parce que je pense que d'abord, avec les victimes entre nous, on est très, comment s'expliquer ? On se parle. J'ai retrouvé une famille.
Ouais.
On se comprend. Vous voyez, on a vécu les mêmes choses, peut-être à des degrés différents, mais on se comprend. Quelque part, des fois, on n'a même pas besoin. Il faut qu'on se touche. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Pour moi, c'est une famille.
savoir qu'ils sont là, proches de vous, près de vous.
Près de vous et qu'ils ont vécu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils ont vécu la même chose, qu'ils comprennent.
Coraline Ingré, on a entendu le témoignage d'Elisabeth Tabary. Elisabeth, vous nous avez dit que vous aviez été prise en charge suite à cette tempête.
Oui, j'étais une des prises en charge parce qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas se faire. Oui, j'étais prise en charge. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Coraline Ingré, aujourd'hui, des cellules d'urgence médico-psychologique, il y en a beaucoup dès qu'il y a une catastrophe climatique. On a progressé de ce point de vue-là.
Oui, complètement. On a beaucoup progressé sur la mise en place de ces cellules d'urgence médico-psychologiques qui apportent des soins immédiatement et qui peuvent aussi détecter les personnes les plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Mais pour autant, il y a aussi les soins au long cours à mettre en place. Et on sent qu'Elisabeth l'a fait et c'est super parce qu'il existe aujourd'hui des thérapies totalement efficaces pour lutter contre les effets d'un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est important de le savoir. Le MDR, les TCC. Et on voit aussi toute l'importance
MDR,
du soutien.
TCC, qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, merci. Le MDR, c'est une thérapie avec des mouvements oculaires qui permettent d'intégrer vraiment le trauma. Parce que le trauma, c'est un événement du passé qui perturbe le présent et qui bouche l'avenir. Et on a des techniques comme les thérapies cognitivo-comportementales ou cette thérapie avec les mouvements oculaires qui permettent de remettre cet événement réellement dans le passé, comme un très mauvais souvenir, mais comme faisant partie de son histoire.
Si je me reconnais dans ces symptômes, Coraline Ingré, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais voir mon médecin, tout simplement ?
Oui, je vais voir mon médecin, je parle de ça pour être orientée vers un centre du psychotrauma qui existe sur le territoire ou pour être orientée vers un thérapeute qui maîtrise des thérapies efficaces dans le trouble de stress post-traumatique.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Elisabeth Tabary et Coraline Ingré, 13h45 sur Inter. Et merci à vous qui nous avez appelés nombreux une nouvelle fois. C'est notre feuilleton Une semaine dans leur vie. Nous poursuivons notre exploration de la filière des panneaux solaires. En France, elle est en plein essor, même si l'immense majorité de ces panneaux, il faut bien le dire, est aujourd'hui fabriquée en Chine. Mais il faut ensuite les assembler. Et là, le rythme ne suit pas. On manque d'assembleurs. Notre reporter Delphine Simon s'est rendue à Marseille, où la société Dualsun forme 500 installateurs par an. Jérôme Moutarde, l'un de ses deux fondateurs, nous y attend.
Alors là, on est face à des équipements électriques qui vont constituer le cœur d'une installation photovoltaïque. Donc nos apprenants, là, dans l'atelier de cet après-midi, ils vont apprendre à le raccorder, à la fois vers les panneaux, mais aussi vers la maison. Globalement, notre mission, c'est de lutter contre les malfaçons qu'on a pu constater dans le métier du solaire. Un défaut d'installation, il va rejaillir sur toute la profession. Donc on est là vraiment dans une logique où si on fait monter en compétences et en qualité les installateurs globalement, c'est d'autant plus de ventes qui se réaliseront parce que c'est toute la filière qui va se crédibiliser et donc nécessairement on en retirera notre part du marché.
Je m'appelle Jean-Michel Bailly. Au niveau de l'éducation nationale, il n'existe pas de formation afférente au solaire. Pour une raison simple, c'est que c'est un métier où il faut avoir des notions dans les différents métiers du bâtiment que sont la couverture, la charpente, l'électricité, la plomberie et le chauffage. Comme les chefs d'entreprise sont très occupés, c'est uniquement des anciens chefs d'entreprise ayant appris le métier sur le tas qui peuvent être amenés à pouvoir faire de la formation, ce que je fais maintenant.
Ça, c'est après, tu as vendu leur coffret d'essai, mais finalement, tu as les câbles là, ici, direct.
Là, d'accord.
Je m'appelle Derwish Sameyer, basé en Normandie. Notre cœur de métier, c'est les déploiements des réseaux très haut débit, notamment la fibre optique. Je suis venu avec Dylan, qui est un de nos salariés. Et alors, on avait envie de développer, on va dire, l'installation de panneaux photovoltaïques dans notre belle région normande. On peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on fait partie d'une des régions les plus ensoleillées de France, apparemment. Pour moi, c'est carrément un nouveau métier. On sait que sur la partie déploiement réseau fibre optique, ça arrive à la fin. Et donc voilà, on anticipe, on va dire, cette fin en venant apprendre un nouveau métier. Quand on voit les toitures normandes, il n'y a pas grand-chose. C'est essentiellement de l'ardoise. Donc on a pu voir ici que c'était effectivement la partie la plus complexe. Mais voilà, ça a été fait très simplement, on va dire, avec les formateurs qui nous ont appris la pose sur des toitures en ardoise.
Je m'appelle Benjamin Bonnat, j'installe moi-même les panneaux. Un engagement personnel sur effectivement l'écologie et la biodiversité. Il n'y a pas que faire des affaires et vendre. Voilà. J'ai monté mon entreprise dans le panneau solaire, au nord des Bouches-du-Rhône, donc plus proche de la région de Salon de Provence.
Bonjour, moi c'est Karaboli Adama, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai monté mon entreprise dans le nord de la France, en Hauts-de-France, sur Amiens. Aujourd'hui, on est dans cette transition écologique et la lutte contre le CO2, donc on passe aux énergies renouvelables. Du coup, pour moi, c'est important de rajouter ces cordes-là à mon entreprise. Et après, par la suite, voir comment est-ce que développer cela un peu en Afrique. C'est très important de ramener ce transfert de technologie là aussi.
Je suis responsable d'atelier. Je viens d'Allemagne, à Berlin. Je travaille déjà dans le photovoltaïque et ce qu'on fait dans cet atelier, on répare du matériel endommagé, donc que ce soit panneaux, batteries ou électronique. Et je voulais apprendre un peu plus en amont, c'est pour ça que je viens à la formation, pour apprendre la pose, raccordement, tout ce qui se fait avant que le matériel soit défectueux en fait.
Après tu vois ce que tu peux faire, hein.
Pas de problème. Le syndicat professionnel qui s'appelle Enerplan a évalué à 8000 embauches les besoins en 2 ans. Nous, aujourd'hui, on est dimensionné ici sur Marseille pour former 500 nouvelles compétences à l'année. Ça ne résoudra pas toute cette pénurie, mais en tout cas, on y contribue. Et le centre de formation qui a ouvert en septembre dernier marche tellement bien qu'on est déjà à la manœuvre pour en ouvrir un deuxième en septembre prochain.
Notre feuilleton spécial panneau solaire cette semaine. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France. Vous nous parlez de ces petites histoires qui en disent long. Et Cyril, vous avez été interpellé ces dernières semaines par le nombre de vols de câbles dont font état nos journaux.
Oui Jérôme, et je vous emmène à Plounérin dans les Côtes d'Armor où le maire de ce village de 750 habitants est très en colère. Résoré s'insurge-t-il en breton auprès de Ouest France. Traduction, trop, c'est trop. L'objet de son courroux, des vols à répétition de câbles en cuivre, 6 depuis septembre 2022, dont le dernier fin avril. Toujours au même endroit, dans une ligne droite sans surveillance, facile à atteindre. À chaque fois, des centaines de mètres de câbles disparaissent ou sont sectionnés. À chaque fois, des habitants sont privés de téléphone fixe et d'internet.
Et cette petite commune n'est pas un cas isolé.
Au contraire, depuis quelques jours, Jérôme, en effet, vous l'avez dit, j'ai repéré via la presse régionale des vols à Betz-le-Château en Indre-et-Loire, à Vironchaux dans l'Oise ou encore à Espinas dans les Hautes-Alpes. Voici par ailleurs les deux régions les plus touchées, l'Occitanie et les Hauts-de-France. Alors, le ministère de l'Intérieur m'a indiqué avoir recensé plus de 7000 procédures de gendarmerie l'an passé pour de tels faits. La majorité des larcins a lieu sur les câbles souterrains plutôt que sur ceux aériens et la tendance est à la hausse. Elle s'explique par le prix élevé de la tonne de cuivre, environ 9000 euros en ce moment. Ainsi, ce matériau très présent dans les câbles, batteries et circuits électroniques a gagné un nouveau nom, l'or rouge.
Et c'est aussi Orange, hein, l'opérateur télécom, qui en fait les frais.
Alors SNCF et retard de train, Enedis et coupures de courant, centre de tri et pillage de déchets, plusieurs acteurs sont touchés par ces dégradations, mais l'opérateur téléphonique historique est sans doute la principale victime de ces vols de cuivre. 1600 en France en 2023, soit 1200 km de câbles dérobés, plusieurs millions d'euros de préjudice, indique Cyril Luneau, le directeur des relations avec les collectivités locales du groupe, ce qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises, les collectivités, les services d'urgence ou pour les habitants qui doivent parfois rester plusieurs semaines sans téléphone ou sans internet. C'est actuellement le cas, par exemple, dans le nord-ouest de la Somme, après le vol de 3000 mètres de câbles. Alors, Orange tente de réparer au plus vite, mais doit faire face à la grogne de ses clients, malgré des équipements de substitution ou du temps d'internet offert sur smartphone. Ainsi, l'opérateur, qui veut fermer son réseau cuivre d'ici à 2030, encourage le passage à la fibre optique. Celle-ci n'est quasiment pas volée, car peu revendable. Le maire de Plounérin, que nous citions au début de cette chronique, n'est pas contre, mais il attend depuis 5 ans. Si on était à Perros-Guirec, le problème aurait été réglé depuis longtemps, mais nous, on est considérés comme des ploucs, s'agace-t-il.
Bon, je retiens quand même ce chiffre, 1200 km de câbles dérobés l'an dernier, et parfois, Cyril, les voleurs sont arrêtés.
Oui, Orange porte systématiquement plainte et a mis en place des collaborations avec les services de gendarmerie, car les voleurs s'adonnent à un jeu du chat et de la souris et surveillent toute nouvelle mesure prise, justifie l'opérateur. Ainsi, une dizaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération géante près de Cahors il y a quelques semaines. Début janvier, le tribunal correctionnel d'Amiens a lui condamné 5 hommes à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables d'avoir commis une trentaine de vols de câbles téléphoniques dans une dizaine de départements. Car rappelons Jérôme que les voleurs de cuivre encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Merci Cyril Petit, je vous laisse filer à Marseille où vous couvrirez à partir de demain pour votre journal Ouest France l'arrivée de la flamme olympique. Vous, je vous garde Frédéric Pommier de C'est la France, ça c'est une chanson. C'est avec une actrice, Frédéric, que vous parlez chanson aujourd'hui, Mélanie Bernier.
Elle est à l'affiche du film Neuilly-Poissy qui sort en salle demain. Et c'est d'une chanson italienne qu'elle a souhaité parler, Vivo per lei, ce qui signifie, Jérôme,
je vis pour elle.
Un titre enregistré par le ténor italien Andrea Bocelli, avec des chanteuses de différentes nationalités, une version en anglais, une version en allemand, en grec. La version française, c'est avec Hélène Segarra, et c'est la seule chanson que Mélanie Bernier connaît quasiment par cœur.
C'est la seule que je connais bien, parce qu'en fait, ma grand-mère avait un CD d'Andrea Bocelli, et il y avait Andrea Bocelli et Hélène Segarra qui chantaient Vivo per lei. Et moi, chez ma grand-mère, il y avait quand même beaucoup de moments où je m'ennuyais. Et donc, c'était la seule chanson que j'aimais, finalement, dans ces CD, et que j'écoutais à longueur de journée en Mayenne. Et donc, du coup, évidemment, je m'amusais à faire Hélène Segarra. Et aujourd'hui, si je dois faire un karaoké, c'est toujours la chanson que je vais choisir, parce que du coup, je la maîtrise à peu près. Voilà, donc c'est vraiment lié à l'ennui, parce que j'avais pas trop de choix, et ça c'est aussi intéressant, et que donc du coup finalement je me suis mise à aimer cette chanson, parce que c'était la seule qui était un peu moderne quand même, malgré tout pour mon âge, et avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps.
Là vous aviez quel âge ?
10 ans, une dizaine d'années.
Et on est à quel endroit en Mayenne ?
On est à Montsûr. À Montsûr, qui est donc un tout petit village de la Mayenne, près d'Evron, Laval, et on est rue de la Libération. Et quand je mets le CD, mais je suis fan de cette chanson, je l'adore.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle. Depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Bientôt 30 ans qu'est sortie cette version, Frédéric, 1995.
Une chanson qui ramène donc Mélanie Bernier au souvenir de sa grand-mère, chez qui elle a passé pas mal de vacances quand elle était enfant, à Montsûr, en Mayenne. Une grand-mère importante.
Très importante. Extraordinaire, exceptionnelle. Et puis j'ai eu qu'une grand-mère en plus, j'en ai connu qu'une. Donc du coup, elle était d'autant plus importante.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous a transmis des choses ?
Oui, elle m'a transmis beaucoup de choses. Par exemple, ma grand-mère, on a beaucoup communiqué par écrit. C'était vraiment une personne avec qui on s'écrivait des lettres toujours, toujours, que je suis en vacances, même quand j'y vais ma vie à Paris. J'ai retrouvé des lettres de quand j'étais en tournage. J'ai eu vraiment une relation épistolaire avec ma grand-mère, qui est peut-être la seule personne avec qui j'ai eu cette relation-là. Et je trouve ça extrêmement émouvant de pouvoir s'écrire comme ça. C'est les lettres, le papier, ça reste, l'enveloppe, tout ça, c'est la joie d'ouvrir une lettre. Donc ça, elle m'a transmis beaucoup ce souvenir-là.
Est-ce que ça veut dire que vous écrivez beaucoup aussi ?
Mais justement, je me rends compte que non. C'est-à-dire qu'en fait, perdant ma grand-mère, il n'y a plus personne à qui j'écris. La dernière fois, par exemple, j'ai reçu une lettre d'un garçon que j'avais croisé, qui a fait le lien il y a des années, etc. Et j'ai adoré, adoré qu'il m'ait écrit une lettre et pas un mail. La démarche d'avoir mis un timbre, de l'avoir posté, etc. Je trouve ça très différent. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne lui ai pas répondu. Donc, il faut que je lui réponde par lettre.
On revient sur cette chanson, Andrea Bocelli, Hélène Segarra. Vous en compreniez quoi de cette chanson ? Que c'était une chanson d'amour, tout simplement ?
Oui, en fait, ces deux voix qui sont malgré tout magnifiques. Cette voix lui, cette voix elle, comment ça repart ? Comment lui l'apaise, comment elle donne l'énergie ? Il y avait quelque chose vraiment d'une complicité vocale qui me touche. Voilà. La puissance de la mélodie, leur timbre, vraiment, je suis... pas quelqu'un qui écoute Hélène Segarra, sauf celle-ci, quoi. Et sa voix à Hélène Segarra, Vivo per lei, je l'adore. Et Andrea aussi. évidemment, parce qu'en plus c'est de l'italien et j'adore l'italien.
Perley, Andrea Bocelli, Hélène Segarra, c'était donc Frédéric le choix de Mélanie Bernier.
Mélanie Bernier que vous pouvez retrouver demain au cinéma dans le film de Grégory Boutboul, Neuilly-Poissy.
Merci Frédéric.